Vous êtes avec SBS French. Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot en France avec la Ligue 1, deux matchs hier, Rennes qui a battu Lens 2-0 et le Paris Saint-Germain qui s'est imposé contre Montpellier 3-1. En Angleterre, il y avait quatre matchs. Chelsea a battu Leeds 3-1, victoire de Manchester United contre West Ham 3-1, victoire de Manchester City contre Fulham 2-0 et Burnley Everton ont fait match nul, un but partout. En Allemagne, le Bayern de Munich, en tête, a fait match nul avec Leipzig, deuxième au classement. Trois buts partout. Précision de Julien Méchaussier pour Radio France Internationale.
Ouais, six buts, trois buts partout pour un chassé-croisé spectaculaire entre le Rekordmeister et le RB Leipzig. Une équipe qui s'est affirmée ce soir comme le grand rival des Bavarois en Bundesliga. Leipzig qui sortait déjà d'un match fou en Ligue des Champions. Victoire 4-3 avec ce but à la dernière minute face aux Turcs de Başakşehir. Tandis que le Bayern avait fait tranquillement tourner sur le terrain de l'Atlético. Pourtant, c'est bien Leipzig qui est venu bouger le Bayern en ouvrant le score grâce à l'ancien parisien Christopher Nkunku. Mais les Bavarois ont réussi à revenir, notamment grâce à un super Kingsley Coman, auteur de trois passes décisives ce soir. Les deux premières pour le jeune anglais, Jamal Musiala et Thomas Müller, qui permettent au Bayern de repasser devant. Mais la défense du Bayern derrière crack avec Niklas Süle et Jérôme Boateng à la rue. La tige repasse devant, 3-2, on se dit que c'est fini. Mais c'était donc sans compter sur Kingsley Coman, qui dépose un amour de centre sur la tête de Thomas Müller. Pas de vainqueur donc. Et le Bayern, Olivier, qui conserve ses deux points d'avance sur le RB Leipzig.
On passe en Espagne. Il y avait quatre matchs hier. L'Atlético de Madrid qui a battu Valladolid 2-0. Le Real de Madrid, troisième, a battu Séville 1-0. On écoute la réaction de Zinedine Zidane, le sélectionneur de Madrid.
Ce sont trois points très importants pour nous. Mais au-delà des trois points, le plus important, c'est le match que nous avons fait. Nous avons souffert en seconde mi-temps, mais je crois qu'en première, nous avons été très bons. Nous avons eu des occasions pour mettre des buts. Et au final, je crois que c'est une victoire méritée. C'est important pour la rencontre qui arrive. Important pour nous de faire à nouveau un bon match. On a vécu dernièrement des moments un peu compliqués. Et aujourd'hui, il faut en profiter et être content. Mais rien de plus. Ce sont trois points. Nous devons bien nous reposer et penser à la suite. Maintenant.
Et puis la belle performance de Cadix qui a battu le FC Barcelone 2-1. Et Neymar qui a déclaré cette semaine vouloir rejouer avec Messi au Barça. Précision de Pierre Chaperon pour Radio France Internationale.
La presse parle d'une dette de 400 millions d'euros quand même pour le Barça. Il y a plus de touristes, il n'y a plus de billetterie. Ce sont les explications en ce moment de l'explosion de la dette du FC Barcelone. Les joueurs vont avoir des reports de paiement de salaire. Ça sera en janvier pour économiser 190 millions d'euros. Si bien que le président par intérim avant les élections du 24 janvier, Carles Tusquets a dit qu'il aurait vu d'un bon œil le départ de Messi l'été dernier. Ça n'aurait pas équilibré les comptes, mais ça les aurait soulagés. Reste à savoir ce que fera le prochain président du Barça. Les élections, je vous le disais, ont lieu le 24 janvier. Un nouveau candidat, Emilie Rousseau, a dit qu'il ferait revenir Neymar l'an prochain, mais les observateurs à Barcelone disent que c'est quasiment impossible. En tout cas, tous les candidats à la présidence s'activent autour de Messi pour savoir s'il va rester. Messi qui sera libre de signer où il veut dès le 1er janvier.
On passe en Italie maintenant avec un mot sur le championnat avec Olivier Pron.
Sachez que l'Inter revient à deux longueurs du leader, le Milan AC, en piste demain soir. Les interistes recevaient Bologne. Ils se sont imposés 3-1 avec un doublé du Marocain Hakimi. Plus tôt dans la journée, la Juve a pris cette deuxième place, au moins pendant quelques temps. Trois points derrière le Milan AC en remportant en toute fin de match le derby de Turin face au Torino 2-1. But du Torino inscrit par le Camerounais Nicolas Nkoulou.
Cette semaine, Patrick Vieira, le coach de Nice, a été limogé après 2 ans et demi. Précision de Hugo Moissonnier pour RFI.
Pourtant, son arrivée à Nice avait suscité beaucoup d'espoir. Patrick Vieira semblait capable de marcher dans les pas de ses anciens coéquipiers en bleu, Zidane, Deschamps. voir Laurent Blanc, joueur puis entraîneur à succès. Crampon au pied, le natif de Dakar était lui aussi un géant du football français, et pas seulement par la taille. Patron du milieu d'Arsenal, vainqueur de la Coupe du Monde 98, finaliste en 2006 et champion d'Europe en 2000. Mais le coach Vieira doit encore progresser. Il n'aura pas tout raté pour sa première expérience au haut niveau sur un banc de touche. 7e de Ligue 1 en 2019, 5e rang synonyme de qualification européenne en mars dernier. Mais les cas de Covid, justement, et la blessure de Dante, son capitaine, auront pollué la fin de l'aventure. Vieira renvoyé, c'est un soulagement pour certains supporters niçois, agacés par un style de jeu censé être ambitieux au départ, mais décevant à l'arrivée. Agacé également par des résultats indignes d'un club doté de moyens intéressants, séduisants il y a encore quelques années, lorsque Claude Puel ou Lucien Favre étaient à sa tête. Aujourd'hui 11e du championnat de France, hors sujet en Coupe d'Europe, Nice vient d'enchaîner 5 défaites de rang.
Et puis on passe en Italie à nouveau avec un stade Maradona, comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI.
Et pas n'importe lequel, celui de Naples, désormais officiellement rebaptisé Diego Armando Maradona. Le Maradona y a brillé à Naples entre 84 et 91, remportant 2 titres de champion d'Italie, les seuls du club napolitain. Prochain match de Naples à domicile en Ligue Europa jeudi prochain contre la Real Sociedad.
Rugby Championship, la 6e journée marquée par le match nul entre l'Australie et l'Argentine hier, 16 partout. Et c'est la Nouvelle-Zélande qui gagne ce championnat pour la 17e fois. Et ce dimanche, finale de la Coupe d'automne des Nations entre l'Angleterre et la France. Précision de Loïc Bussière pour RFI.
L'Angleterre reçoit la France en finale de cette épreuve inédite puisque montée par les instances mondiales dans l'urgence du Covid. Une finale qui aura toutefois des airs de pétard mouillé, grince certains, à commencer par les Anglais qui comprennent mal que les Bleus n'alignent pas leurs meilleurs joueurs demain à Twickenham. Il faut savoir que la Fédération française et la Ligue professionnelle ont signé une convention qui limite à 3 feuilles de match la présence des internationaux. Les observateurs anglais sont donc tentés de voir dans le match de demain une farce. Ce n'est pas le cas de Fabien Galthié, le sélectionneur français.
Vous savez que cette équipe, ce qui est le plus marquant, c'est, oui, vous avez dit, la jeunesse, le nombre de sélections qui est faible, le peu d'expérience commune qu'ont les joueurs. Donc on a essayé d'accélérer tout ça. On a très peu pour préparer ces matchs-là. Et donc nous, l'enjeu, c'est de mettre en place une organisation et une méthodologie qui permette d'exploiter au mieux le temps passé ensemble. Donc on travaille beaucoup sur la stratégie. Le match du mois de février nous a beaucoup aidé. Comment on l'avait préparé, comment on l'a joué, comment le jeu de l'Angleterre a évolué ces derniers temps, qu'est-ce que nous sommes capables de faire avec cette équipe qui a peu d'expérience collective. Donc tous ces éléments, on les mélange, on les mixe et puis on essaie de construire des semaines qui nous permettent d'arriver le plus compétitif possible le jour du match. Et dimanche, on sera prêt, je vous assure, on sera prêt.
Formule 1, et on revient sur le crash dimanche dernier de Romain Grosjean, le Français qui a failli perdre sa vie à Bahreïn. Il raconte l'accident sur European Broadcasting Union.
Elles ont duré plus longtemps que 28 secondes, c'est vrai, mais ça ne m'a pas paru long en tant que tel. C'est pas comme si j'avais attendu, parce que j'ai toujours essayé d'être actif. Donc effectivement, l'impact avec l'oreille, qui n'est pas un impact, qui n'est pas le plus violent que j'ai connu de ma carrière, bien que léger l'indique. La décélération de 53G, j'ai jamais pris ça. Ensuite, il y a le moment où je défais ma ceinture tout de suite. J'essaie de sortir de la voiture. Je me rends compte que mon casque tape quelque chose. Donc, je suis soit sur le toit. Au début, je ne me rends pas compte que je suis dans les barrières. D'ailleurs, je ne me rends pas compte jusqu'à sortir de la voiture que je suis dans la barrière. Donc, je monte top. Donc, je me rassieds dans la voiture. Je me dis, bon, ben, je vais attendre. Je suis bloqué. Je vais attendre qu'on vienne m'aider. Et là, sur la gauche, c'est tout orange, donc c'est le tire-off qui brûle sur ma visière. Le feu, je me dis, bon, on n'a pas le temps d'attendre. Donc, je vais essayer de ressortir un peu sur la droite. Ça ne passe pas. Je vais essayer sur la gauche, ça ne passe pas. Je me rassieds. Là, c'est le moment où j'ai pensé à Niki Lauda. En me disant, non, je ne peux pas finir comme ça, ce n'est pas maintenant. Je ne peux pas. Je sais pas, je pense à Niki Lauda, parce que pour moi, en Formule 1, c'est vraiment l'image du pilote qui a brûlé, qui était coincé dans sa voiture.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.